Léa Salamé, votre invité ce matin est professeur agrégé d'histoire en Seine-Saint-Denis, auteur de « Allons enfants, la République vous appelle », c'est aux éditions Odile Jacob.
Et bonjour Yanis Roder.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous. 10 ans après votre précédent livre qui avait beaucoup fait parler, « Tableau noir, la défaite de l'école », c'était un état des lieux sombre, pessimiste, qui voulait réveiller les consciences. Vous publiez donc ce nouveau livre, « Allons enfants, la République vous appelle », fruit d'un travail de 20 ans dans un collège de Seine-Saint-Denis. Peut-on dire, même si vous restez lucide, que ce livre-là, qu'aujourd'hui, vous êtes un peu plus optimiste ?
Optimiste, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on peut faire des choses dans l'école de la République, dans les banlieues, dans les zones de leur relégation sociale. On peut travailler, on peut faire s'élever intellectuellement ses élèves, comme tous les élèves de France. Et donc, de ce point de vue-là, oui, peut-être que je suis plus optimiste qu'il y a 10 ans, parce que, non pas que je n'ai pas travaillé avant, mais voilà, j'ai réfléchi beaucoup à cette situation et j'ai travaillé au regard de cette situation.
Vous livrez une série de pistes pour apaiser l'école, pour améliorer les choses, les tensions dans les lycées en zone sensible. Parmi ces solutions, il y en a une qui a émergé ici même, à France Inter, puisque Vous étiez dans ce studio après Charlie.
Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh ben, après Charlie, voilà, Laurence Bloch, la directrice de France Inter, m'a contacté, et puis on a créé ensemble Interclasse, voilà, cet outil d'éducation aux médias avec comme cheville ouvrière Emmanuel Davier de France Inter, qui nous aide qui travaille énormément tous les ans pour justement faire cette éducation aux médias.
Et qui a donc pour objectif de faire rencontrer des classes d'élèves.
Exactement, avec des journalistes
exactement, d'ici. Et exactement. Ça s'est fait effectivement, ces rencontres entre des journalistes et des adolescents qui habitent à 13 km de la maison de la radio,
oui, sont
sont édifiantes parce qu'elles montrent que 13 km, ça peut être un monde. Racontez-nous par exemple comment s'est passée la rencontre entre les journalistes d'Inter et Jérémy. Qu'est-ce qu'il a dit, Jérémy ?
Ah, Jérémy. Bah, Jérémy, quand il a vu arriver les journalistes, il était très méfiant. Et je me souviens très bien, c'est Sébastien Paour, hein, donc de la rédaction de France Inter, qui a pris la parole à ce moment-là et qui explique qu'il était à Marseille. Et puis j'ai entendu, moi, au fond, Jérémy dire...
Qui raconte qu'il était à Marseille dans les quartiers nord.
Voilà, exactement, dans les quartiers nord, tout à fait. Et j'entends Jérémy, au fond, dire, c'est pas vrai, il n'est pas pu y aller, c'est un mytho, parce qu'il serait fait tuer. Voilà. Et donc, l'idée de Jérémy, c'est qu'en face de lui, il a quelqu'un qui raconte des histoires, qui raconte des cracks, que ce n'est pas vrai, et finalement c'est l'image que Jérémy avait des journalistes.
On est des mythos, ou alors, Yacoub, on est des mythos, mais on est aussi des bourges.
On est des bourges blancs. C'est un petit peu l'idée qu'avait Yacoub. Il était très méfiant, il était au fond lui aussi, il regardait ça d'un œil un peu noir finalement, et je l'ai entendu aussi dire, ça c'est un truc de bourges, c'est des bourges, de toute façon ils nous connaissent pas, hein. C'est ce que ça voulait dire, voilà.
Vous dites qu'au lendemain des attentats de Charlie, le pays s'est pris en pleine figure une réalité que les enseignants connaissent depuis longtemps, une réalité que l'éducation nationale a voulu longtemps minimiser, que les médias n'ont pas voulu voir, c'est que oui, une partie de notre jeunesse nourrie aux réseaux sociaux vit dans un monde parallèle fait de fake news, et ça va très loin, écrivez-vous. Vous dites qu'il faut dans certains cas, la tâche relève d'une véritable évangélisation républicaine.
Oui,
vous êtes missionnaire.
En quelque sorte, vous savez, non, je ne me prends pas pour un des hussards noirs de la République, de la Troisième République, mais néanmoins, on a face à nous des élèves qui, effectivement, sont abreuvés d'informations, n'ont pas nécessairement les outils intellectuels, pas encore en tout cas, pour hiérarchiser, pour classer tout cela, et pour qui la première information qui passe fait vérité. Donc tout notre travail, et c'est notamment ce que nous faisons entre autres avec Interclasse, mais au quotidien, tous les enseignants le font, c'est justement d'expliquer comment on construit une information, comment s'écrit l'histoire. Histoire aussi, parce que ces méthodes de travail sont identiques, et tout cela c'est extrêmement important pour éveiller les consciences et surtout faire acquérir à ces élèves leur libre arbitre.
Quand on a en face à soi un élève qui vous assure que la Terre est ronde, qui vous demande pourquoi on fait une minute de silence pour les victimes juives de Mera...
La Terre est ronde, c'est sûr.
Que la Terre est plate. Vous voyez, tout le monde est capable de dire des fake news. On vous demande pourquoi est-ce qu'on fait une minute de silence pour les victimes juives de Mera et pas pour les Palestiniens. On vous demande pourquoi ils gardent Abdeslam en prison alors qu'il a rien fait. Qu'est-ce qu'on répond quand on est enseignant ?
Eh ben, on fait parler d'abord les élèves. C'est-à-dire qu'il faut toujours les faire parler. D'abord, il ne faut jamais leur faire de reproches. Voilà, ce que tu dis, c'est affreux, tu te rends compte, ça ne sert à rien, la leçon de morale. Il faut les faire parler pour qu'ils réfléchissent à la teneur de leurs propos, leur faire expliciter leurs propos. Et après, vous pouvez...
Donnez-nous un exemple. Par exemple, si je vous dis pourquoi une minute de silence, décidément ce matin, pourquoi une minute de silence pour les victimes juives de Mera et pas pour les Palestiniens, vous me répondez quoi ?
Alors, je réponds simplement, pourquoi voudrais-tu puisque nous sommes en France ici, faire une minute de silence pour les Palestiniens. Quel lien tu fais entre ce qui vient de se passer à Toulouse, puisqu'on parle de Mera, et ce qui se passe dans les territoires palestiniens? Et à partir du moment où l'élève répond, s'il trouve un lien ou s'il n'en trouve pas, on va rebondir, expliquer, resituer, recontextualiser.
Vous proposez notamment de changer la manière d'enseigner la Shoah. Vous dites qu'il faut favoriser une approche historique et non plus morale. Et vous proposez de partir des bourreaux et non plus des victimes.
Oui.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je crois qu'il faut que nos élèves comprennent quel est le moteur quels sont les moteurs des processus de violence de masse en général, au-delà même de la Shoah. On pourrait parler des génocides des Tutsis au Rwanda ou du génocide des Arméniens. Il s'agit de comprendre comment les tueurs en sont arrivés à construire des raisonnements politiques, idéologiques qui les ont amenés à assassiner des centaines de milliers et à créer de personnes et à mettre en place un génocide. C'est cela qui compte. Sans oublier pourquoi les victimes sont victimes aux yeux des assassins. C'est très important.
Vous racontez un des moments les plus marquants, dites-vous, de votre carrière d'enseignant. Vous avez emmené vos élèves, presque tous musulmans, dans une synagogue.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On a beaucoup ri, en fait. C'était extrêmement sympathique. Mes élèves sont entrés dans la synagogue. Ils ont tous mis une kippa, comme on doit le faire dans une synagogue. Ils se sont assis. Le rabbin était en retard. Et quand le rabbin est arrivé, ils se sont tous levés d'un seul homme. Le rabbin était extrêmement surpris, parce que, oui, mes élèves sont bien élevés aussi. Et ils ont échangé pendant 2 heures. Le rabbin a sorti les rouleaux de la Torah. Il a même chanté. Les élèves étaient extrêmement curieux. Ils ont posé 1000 questions. Et ils sont repartis très enthousiastes. Et le plus enthousiaste de tous, c'était le rabbin.
Et on dit, il est vraiment sympa ce rabbin. C'est une rentrée placée sous le signe de l'évaluation cette année, voulue par Jean-Michel Blanquer, le ministre. Les élèves seront évalués 2 fois par an en CP, CE1 et 6e. Est-ce que c'est une bonne chose?
À partir du moment où il nous faut prendre des mesures et il nous faut prendre la mesure de ce dont nous avons besoin, je crois qu'évaluer, c'est quand même la base, c'est-à-dire savoir où on en est pour pouvoir mettre en place éventuellement des mesures de remédiation, des mesures d'amélioration de la scolarité de nos élèves.
Donc vous ne dites pas ça va encourager l'esprit de compétition, c'est pas bien d'évaluer?
Non, je ne crois pas que ce soit le but. Je crois qu'à un moment donné, il faut peser les choses, dire voilà, où nous en sommes là, plutôt que de faire ça par les enquêtes PISA qui nous en mettent plein la figure régulièrement, faisons-le nous-mêmes. Regardons où en sont nos élèves et mettons en place ce qui va permettre d'améliorer les choses.
Sur la philosophie des réformes de Jean-Michel Blanquer qui veut donner plus de place à l'oralité avec ce grand oral dans le futur bac, c'est une bonne chose?
Pour moi, c'est une bonne chose, oui. Mes élèves, par exemple, ont parfois des grandes difficultés à l'écrit, mais à l'oral, ils ont des choses, ils savent faire des choses, ils savent s'exprimer, il y a des vrais talents. Autant valoriser aussi l'oral, puisqu'on valorise beaucoup l'écrit en France dans l'école, pourquoi ne pas valoriser de manière égale, l'oral, de manière peut-être à donner la chance à plus d'élèves de réussir.
Merci Anis Roder. Ça s'appelle Allons enfants, la République vous appelle. Livre très intéressant chez Odile Jacob et vous citez en exergue, je vais le citer ce matin, Charles Péguy. Les crises de l'enseignement ne sont pas des crises de l'enseignement, ce sont des crises de la vie. Merci et belle journée.
Merci beaucoup.
Merci Léa et à tout à l'heure.